Bienvenue sur votre émission La Voix du Jazz sur Radio Shalom 87.1 FM. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'épisode 4 qui parlera le début du swing, donc dans la continuité de l'histoire du jazz. Et du coup, on va parler directement de comment le swing est arrivé, comment il s'est installé dans le domaine du jazz, avec à la fois les phénomènes socioculturels et politiques et économiques surtout. Donc le krach boursier du 24 octobre 1929 provoque un grand chamboulement économique. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs atteint le chiffre astronomique de 11 millions de chômeurs en 1932. Cette crise économique a eu un impact sur la situation politique en mettant les partis démocrates au pouvoir pour deux décennies, donc de 1933 à 1952. Et pour la première fois, les Afro-Américains se tournent du parti démocrate plutôt que le parti républicain, car considéré comme plus libéral. Pour vous donner un ordre d'idée, 38% des Afro-Américains sont au chômage, et dans certaines villes, ça atteint le chiffre des 80%. Cette tournure est due à la politique sociale de New Deal, lancée par Franklin Roosevelt, qui nomme des leaders noirs à certains postes, ce qui donne de l'espoir à la communauté afro-américaine. Même si dans les faits, elle en profite peu des mesures prises, c'est dans la foi et notamment dans l'église que la communauté afro-américaine consolide ce manque de droits par d'autres moyens comme le travail caritatif, social et politique, en s'associant à des mouvements de boycott qui ont pour rôle de mettre une pression sur l'embauche des Afro-Américains. Ce militantisme va déchirer cette communauté, d'une part à cause du radicalisme nationaliste afro-américain, d'une autre partie à cause de désaccords entre l'intégration de la classe moyenne et l'aspiration sociale du prolétariat, et en plus de tout cela, les ghettos noirs s'enfoncent dans la misère. Il y a un son en particulier, Duke Ellington, Moody Dingo, un son à la fois mélancolique, qui évoque la morosité et la dignité des communautés face à la crise.
Mood Indigo. Thank you.
Cette crise économique a impacté tous les domaines, l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la musique, et surtout l'industrie musicale. Avec cette crise, le disque est malmené par le cinéma parlant. Le succès de la radio accentue les effets de la dépression. Les techniques de radiodiffusion se sont bien améliorées depuis les premières diffusions et retransmissions en 1923. Des disques de 40 cm faisant 33 tours par minute permettaient d'enregistrer 15 minutes de musique et la diffuser en différé lors de concerts. Créés en 1899, les jukebox, donc boîtes à danser ou boîtes à musique, s'imposent dans les bars à partir des années 1930. Leur succès permet aux Afro-Américains d'écouter et de soutenir la diffusion de catalogues de musique afro-américaine enregistrée. Et j'ai choisi une musique en particulier, une de Bessie Smith, Nobody Knows You When You're Down and Out. C'est un extrait datant de 1931. Et cet extrait-là fait vraiment une transition entre précarité des artistes et la nostalgie d'une époque avant la crise, et une en particulier, comme je l'avais cité précédemment dans l'introduction, la crise économique de 1929. Donc Bessie Smith, Nobody Knows You When You're Down and Out.
Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends any, but if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out.
Au même moment, certains labels font faillite comme Gennett ou Paramount, et d'autres se font absorber par de plus grands labels comme Victor RCA, Columbia, et surtout la branche américaine Decca qui domine le marché de l'enregistrement de musique jazz, qui rachète en chaîne et crée des filiales à l'étranger. Un cauchemar pour les collectionneurs et les discographes. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les amateurs de jazz deviennent des collectionneurs. En France, nous avions un très connu, Charles Delaunay. Né en 1911 et mort en 1988, c'est un pionnier du jazz en France. Cofondateur de la revue Jazz Hot en 1935 et de la maison des disques Disque Swing, il a été journaliste, musicologue et promoteur de concerts. Collectionneur des disques et auteur de nombreux ouvrages, il a largement contribué à diffuser et préserver la culture jazz en Europe, en faisant connaître les artistes français et américains au grand public. Pour en revenir, beaucoup de ces collectionneurs cherchèrent à reconstituer les dates d'enregistrement. Les vieilles cires prennent de la valeur et la remise en vente de disques invendus crée ce qu'on appelle aujourd'hui la réédition. Il y a aussi l'arrivée de l'électricité qui permet aux musiciens d'amplifier leur instrument, à la différence des résonateurs pour les guitares où les brevets de conception se multiplient, comme par exemple les guitares Dobro et National des Opéra Brothers aux États-Unis depuis 1926 et Selmer de Mario Mascafelli en France en 1932. Et surtout, l'arrivée de l'ampli électrique change complètement la sonorité de la guitare et permet aux utilisateurs de cet instrument de rajouter des effets comme la saturation, la compression, le chorus. Petit aparté, le chorus, c'est faire sonner un instrument comme un ensemble. Des techniciens comme Lloyd Lohar et George Beauchamp sont parmi les premiers à avoir envisagé de amplifier la guitare électriquement. Et c'est dans les années 1930 que la commercialisation de la guitare électrique a commencé, avec notamment des marques qui sont à l'heure actuelle toujours existantes, comme Gibson, Rickenbacker, qui séduit avec le monde du western swing, puis du jazz en 1935. Il y a aussi un autre instrument qui subit l'amplification électrique, et c'est l'orgue, l'orgamont, qui est présenté avec un orgue électrique à roue phonique. Et pour en revenir, cette période a connu des légendes comme Robert Johnson, avec la trentaine de faces enregistrées entre 1936 et 1937 au Texas. Et selon la tradition populaire, Robert Johnson aurait été un guitariste médiocre dans sa jeunesse. Un soir, désespéré de ne pas savoir jouer comme ses idoles, notamment Son House et Willie Brown, il serait parti avec sa guitare jusqu'à un carrefour, au cœur du delta du Mississippi, souvent dit être à Clarksdale, à l'intersection Highway 49 et Highway 61. Là, il aurait rencontré le diable sous la forme d'un homme grand et sombre. Celui-ci aurait pris sa guitare, l'aurait accordée, joué quelques notes, puis l'aurait rendue, en échange de son âme. Dès lors, Robert Johnson serait revenu avec un talent prodigieux, jouant un blues d'une intensité et d'une technique inouïe. Ses contemporains racontaient qu'il semblait avoir fait un pacte, tant sa transformation fut soudaine. Il y a un extrait, surtout je dirais même un morceau, qui en parle de cette histoire-là avec Robert Johnson, c'est The Crossroad Blues, sorti en 1936, qui est un lien direct avec ce carrefour du pacte. Il y a aussi un autre extrait qui parle aussi de ce pacte-là que Robert Johnson aurait fait avec le diable. Et c'est Me and the Devil Blues, où il chante « Me and the Devil Walking Side by Side », signifiant « Moi et le diable marchant côte à côte », ce qui alimente la légende de Robert Johnson. Et il y a un film qui traite aussi de ce sujet-là. Mais juste avant, on va écouter cet extrait « Me and the Devil Blues ». And the Devil Blues de Robert Johnson. Et pour en revenir de ce que j'avais cité précédemment, il y a eu un film qui est sorti au sujet de cette légende qui s'appelle Crossroads, datant de 1986, avec Eugene Martin, donc un personnage joué par Ralph Macchio, jeune prodige de la guitare classique qui étudie dans la prestigieuse école de la musique Juilliard, est fasciné par le blues du delta du Mississippi, et il admire surtout Robert Johnson, le mythique bluesman dont la légende raconte qu'il aurait vendu son âme au diable en échange de son talent. Eugene découvre qu'il existait une 30e chanson perdue de Robert Johnson jamais enregistrée. En cherchant des indices, il rencontre Willie Brown, joué par Joe Seneca, un vieux bluesman qui prétend avoir connu Johnson et avoir joué avec lui. Willie est en réalité un ancien compagnon de route de Johnson, lui aussi lié par un pacte avec le diable. Eugene aide Willie à s'évader de la maison de retraite où il vit et les deux partent sur la route du sud, à travers le Mississippi, dans une quête initiatique mêlant musique, amitié et rédemption. Sur leur chemin, ils croisent Franz, joué par Jamie Gertz, une jeune fugueuse dont Eugene tombe amoureux. Mais le véritable but du voyage est de permettre à Willie de racheter son âme, perdue des décennies plus tôt au célèbre carrefour, là où il avait passé son propre pacte. Un film que je vous conseille de regarder très fortement. Pour en revenir sur toute l'histoire du swing, la Grande Dépression a bouleversé l'Amérique. Elle a brisé des vies, détruit des industries, mais elle a aussi fait naître des légendes. Dans les ghettos du Sud, dans les bars enfumés, dans les églises et les rues poussiéreuses du Mississippi, un son nouveau s'élève, plus âpre, plus vrai. Robert Johnson, guitare à la main, devient le symbole de cette époque, un homme entre deux mondes, entre Dieu et le diable, entre misère et génie. Sa légende, celle du pacte au carrefour, continue d'alimenter l'imaginaire du blues et du jazz. Et pendant que les grands labels se battent pour survivre, que la radio prend le pouvoir, que l'électricité transforme les instruments, une révolution musicale est déjà en marche. Celle de l'amplifié, du swing électrique, de la renaissance du jazz. Et pour représenter cette transition, j'ai choisi 7-11 de Charlie Christian, sorti en 1939. C'est là, dans les années 30, que le jazz se réinvente. Dans le prochain épisode, on parlera de cette transformation, comment le jazz, né de la douleur et nourri par la crise, va s'épanouir avec l'arrivée du swing et des big bands. Ici s'achève le quatrième épisode de La Voix du Jazz. Merci d'avoir écouté votre émission sur Radio Shalom 87.1 FM et on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt!